VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du lundi 21 août 2017, en direct de Washington. Idrissa Seroudia et Arnold Butson. Nous commençons par les titres.
En République centrafricaine, 13 personnes tuées et 20 autres blessées, dont de nouveaux affrontements à Bria pendant le week-end.
Au Nigeria, retour hier du président Muhammadu Buhari après 104 jours à Londres pour des raisons médicales.
Grace Mugabe, première dame du Zimbabwe, a regagné hier Harare après avoir obtenu l'immunité diplomatique en Afrique du Sud.
Discours du président Donald Trump ce soir pour annoncer la nouvelle stratégie des États-Unis en Afghanistan.
Barcelone a rendu hommage hier aux victimes des attentats de Catalogne.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République centrafricaine, au moins 13 personnes ont été tuées et 20 autres blessées samedi à Bria, à 450 km au nord-est de Bangui, dont de nouveaux affrontements entre groupes armés ex-Séléka et anti-Balaka. C'est ce qu'a indiqué dimanche à l'AFP un médecin de la ville. La mission des Nations Unies, la MINUSCA, présente à Bria, n'a fait état d'aucun bilan. Nous reviendrons sur le rôle des humanitaires en République centrafricaine en seconde partie de cette édition.
Au Nigeria, bien, la population a célébré hier par des actions de grâce le retour du président Muhammadu Buhari après un long séjour à Londres pour des raisons médicales. Le point avec Idriss Fall.
Âgé de 74 ans, le président Muhammadu Buhari a regagné samedi Abuja. Des milliers de personnes ont salué son arrivée à l'aéroport et le long des routes, il doit s'adresser à la nation aujourd'hui, lundi. Hier, des cérémonies de prière ont eu lieu dans des églises, mosquées, au siège du gouvernement et la présidence à Abuja. Buhari salué en héros, titre le quotidien These Days. Le Guardian écrit 104 jours après, Buhari rentre chez lui. Pendant son absence, le vice-président Yemi Osinbajo, un chrétien du Sud, a assumé les fonctions. Le président nigérian avait quitté son pays le 7 mai pour des raisons médicales. Il avait déjà effectué un séjour de près de 2 mois à Londres en janvier et février et s'était déjà absenté l'année dernière. Ces absences répétées ont alimenté les spéculations, d'autant que la nature de sa maladie n'a jamais été révélée.
Grace Mugabe, première dame du Zimbabwe, a obtenu l'immunité diplomatique auprès des autorités sud-africaines et elle a pu rentrer hier à Harare. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Le président Robert Mugabe et la première dame sont arrivés hier à Harare. Les autorités zimbabwéennes avaient demandé à Pretoria l'immunité diplomatique pour Grace Mugabe, qui lui a finalement été accordée. Grace Mugabe est sous le coup d'une plainte pour coups et blessures contre une mannequin. Gabriela Angels, 20 ans, affirme avoir été agressée violemment par la première dame dans un hôtel de Johannesburg le 13 août. Selon les médias sud-africains, deux fils de Grace Mugabe se trouvaient dans le même établissement. AfriForum, une organisation qui défend la top modèle, a dénoncé ce départ en secret et la culture de l'impunité des dirigeants corrompus qui se protègent entre eux. L'Alliance démocratique, principal parti de l'opposition sud-africaine, a dénoncé la complicité du gouvernement qui a permis à Grace Mugabe de fuir en pleine nuit pour éviter des poursuites.
Au Maroc, le roi Mohamed VI s'est félicité hier dans un discours télévisé à l'occasion d'une fête nationale de la politique menée par son pays en Afrique. Politique basée, a-t-il dit, sur des partenariats gagnant-gagnant. Mohamed VI s'est posé en défenseur des intérêts du continent et a parlé du lancement de méga-projets de développement destinés à améliorer les conditions de vie des populations africaines. Son pays a réintégré l'Union africaine au début de l'année.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Donald Trump doit dévoiler ce soir la nouvelle stratégie des États-Unis en Afghanistan, où ils sont militairement engagés depuis 16 ans. Le président Trump prononcera un discours à la nation à Fort Myer, une base située au sud-ouest de Washington.
En Espagne, les autorités espèrent fournir aujourd'hui l'identité de tous les membres de la cellule djihadiste responsable du double attentat qui a fait 14 morts en Espagne. Un suspect est toujours en fuite et un imam au passé trouble a disparu.
Et hier, Barcelone a rendu hommage aux victimes des attentats de Catalogne. La police a révélé que ceux qui ont mené les attaques disposaient de 120 bonbonnes de butane et s'apprêtaient à commettre d'autres attentats. Précision de Rosine Munezero.
Près de 2000 personnes ont assisté hier à une messe dans la célèbre basilique de la Sagrada Familia sous la surveillance de tireurs d'élite. 12 des 14 personnes tuées ont été identifiées, dont deux petits garçons en bas âge. 51 personnes sont toujours hospitalisées, dont 10 entre la vie et la mort. Selon le chef de la police catalane, Joseph Luis Trapero, les auteurs des attaques de jeudi et de vendredi s'apprêtaient à commettre un ou plusieurs attentats. Un raté a entraîné la déflagration dans la maison qu'ils occupaient depuis 6 mois à Alcanar, à 200 km au sud-ouest de Barcelone. Au moins 120 bonbonnes de gaz ont été découvertes par la police en inspectant les décombres. Moins de 24 heures après cette déflagration, la cellule a perpétré un double attentat avec des véhicules béliers à Barcelone et à Cambrils. 12 suspects ont été identifiés et interpellés, mais le conducteur de l'une des camionnettes court toujours.
Collision entre le destroyer américain USS John McCain et un navire marchand Alnick MC à l'est de Singapour, près du détroit de Malacca. Selon l'US Navy, le destroyer lance-missile a subi des dégâts, mais on ne sait pas au juste s'il y a des blessés.
La Corée du Sud et les États-Unis ont entamé lundi leurs exercices militaires conjoints selon l'armée sud-coréenne, alors que Pyongyang a prévenu par avance que ces manœuvres ne feraient qu'exacerber les tensions dans la région. Les deux alliés présentent ces manœuvres comme purement défensives, mais aux yeux de Pyongyang, c'est pour préparer une invasion de son territoire. Chaque année, la Corée du Nord brandit la menace de représailles militaires.
Ce lundi 21 août, pour la première fois en 99 ans, une éclipse solaire totale va traverser les États-Unis, plongeant dans l'ombre une diagonale allant du nord-ouest au sud-est du pays. C'est la ruée des accros pour observer de plus près ce phénomène, Idriss Fall.
Restaurant, hôtel, affiche complet sur sa trajectoire. Il s'agit de la première éclipse totale à survoler les États-Unis depuis le 8 juin 1918. Quelques 12 millions de personnes veulent observer ce qui débutera à l'extrême nord-ouest du pays et deviendra totale éclipse sur Lincoln Beach dans l'état de l'Oregon à 16h05 GMT selon la NASA. Fred Espenac prévoit de se rendre dans le Wyoming avec 17 appareils photo. Cette disparition du soleil en plein jour dure environ 1 minute, parfois 2. Les scientifiques savent les prédire avec une précision extrême, presque à la seconde près. En moyenne, une éclipse est visible quelque part sur la planète tous les 16 mois. Différentes cultures y voient une intervention divine ou celle d'un démon. La NASA, agence spatiale américaine, a beau prévenir contre les idées fausses, mais rien n'y fait, car les croyances ont la peau dure.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco et Kiabadou.
Coris Banque Internationale, basée à Ouagadougou, au Burkina Faso, a réalisé un bénéfice de plus de 10 milliards de francs CFA au terme du premier semestre 2017. En Côte d'Ivoire, après 8 mois de négociations, le gouvernement et les principales organisations syndicales de fonctionnaires ont signé jeudi 17 août 2 protocoles d'accord. Ils prévoient une trêve sociale de 5 ans en échange de la satisfaction de 5 des 6 revendications des employés. La principale concerne le paiement des arriérés de salaire, estimé à près de 250 milliards de francs CFA. Au Nigeria, des travaux d'extension du réseau ferroviaire ont démarré. Le coût total est estimé à 41 milliards de dollars. L'objectif, développer son économie non pétrolière en stimulant le transport des marchandises à l'intérieur du pays et jusqu'aux ports maritimes. Inquiétude au Congo-Brazzaville qui est au bord de l'effondrement économique avec la chute du prix de l'or noir. Les espoirs pour les 3 prochaines années sont en direction du gisement pétrolier Moho Nord, phase 2, opéré depuis mars par la compagnie EEP, filiale du groupe français Total. Il fournira environ 20% de la production de pétrole, soit 267 000 barils par jour en 2017 et espère atteindre 350 000 barils par jour en 2018 pour se hisser au 3e rang des pays producteurs de pétrole d'Afrique subsaharienne, derrière l'Angola et le Nigeria.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Elisa.
Idrissa, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec l'épilogue des qualifications pour le CHAN 2018. On connaît presque tous les qualifiés.
À l'Ouest A, en attendant le match Guinée-Sénégal qui a vu les Sénégalais l'emporter à l'aller, le Mali a été éliminé par la Mauritanie après le nul 2-2 du match aller à Nouakchott. Les Maliens finalistes de la dernière édition avaient donc de bonnes chances de se qualifier, mais ils ont finalement craqué en s'inclinant 1-0 retour à Bamako.
Dans la zone Ouest B, la Côte d'Ivoire se fait peur.
Oui, mais elle a finalement réussi à arracher son billet, battu 2-1 par le Niger à l'aller. Les éléphants se sont imposés 1-0 au retour à Abidjan grâce à un but de Sanfo Silla dans les arrêts de jeu. Dans cette zone, le Nigeria s'est également sorti du piège béninois en s'imposant 2-0 après une défaite 1-0 à l'aller. Le Burkina Faso s'est lui aussi qualifié en battant 2-1 le Ghana lors d'un match particulièrement disputé.
Qualification également pour la Libye et le Maroc dans la zone nord.
Les Libyens ont été les premiers à se qualifier en dominant l'Algérie 1-0 à Sfax. L'autre qualifié, c'est le Maroc, vainqueur de l'Égypte 2-0. Au sud, pas d'exploit pour les Comores, pourtant bien partis pour décrocher la qualification après une victoire 2-1 au match aller face à la Namibie. Les Comoriens se sont inclinés 2-0 lors du match retour. Dans le reste du groupe, la Zambie s'est qualifiée au détriment de l'Afrique du Sud, tout comme l'Angola face à Madagascar.
Au centre, Élysée, le tenant du titre a été sorti.
Exactement, Idrissa. Grosse désillusion pour la RD Congo qui ne verra pas le Kenya après un match nul 0-0 face au Congo Brazzaville. Les Léopards n'ont pas pu faire mieux qu'un deuxième nul 1-1 à domicile. Pas de problème en revanche pour le Cameroun, vainqueur facile de Sao Tomé et Principe. À l'Est, l'Ouganda s'est qualifié sans aucun problème face au Rwanda et le Soudan s'est défait de l'Éthiopie.
Football toujours avec les résultats de la 28e journée du championnat camerounais MTN et Elite One.
Oui, et le leader Edin Sport a fait le job en balayant Dragon 3-0. Son dauphin Coton Sport du Garoua joue New Star aujourd'hui. Pour le reste, APJS et Young Sport Academy, respectivement 3e et 4e, se sont neutralisés score 1 but partout. Même score entre Union et Focho, tout comme Canon Aigle. Et puis, champion titre USM s'est incliné à domicile 1-0 devant Colombe.
Deuxième journée en revanche en Tunisie et deuxième victoire pour l'Étoile du Sahel et l'Espérance de Tunis.
Les 100 et or de Tunis sans forcer sont venus à bout hier de l'US Ben Kaidan 2-0. De son côté, l'Étoile sportive du Sahel a aussi assuré en recevant l'Avenir sportif de Gades sur une nette victoire de 3-0. Pour le reste, début difficile pour le club sportif facien qui concède une fois encore le nul, cette fois à domicile pour totaliser 2 points. À Monasti, le club africain a obtenu le point du match nul face à l'USMO, alors que le CA Bizerdin a concédé une nouvelle défaite sur le terrain de l'Espérance de Zazie.
On reste en Tunisie pour parler du transfert du Gabonais Franck Obambou à l'Espérance de Tunis.
Selon le quotidien algérien Al-Chouk, l'Espérance sportive de Tunis serait tout proche de finaliser le transfert du latéral international gabonais Franck Obambou. Selon le même quotidien, le président du club tunisien Hamdi Medeb et son homologue algérien de l'entente de Sétif, Hassen Hama, ont trouvé un accord pour finaliser ce transfert.
Afro-basket féminin, pour terminer, la compétition se poursuit à Bamako et déjà 5 équipes valident leur ticket pour les quarts.
Outre la qualification en quart de finale de l'équipe du Sénégal, championne d'Afrique en titre, les autres prétendants au sacre, que sont l'Angola et le Nigeria, ont aussi réussi à valider leur ticket pour les quarts. Les rencontres se poursuivent à Bamako et on fait le point avec notre envoyé spécial Amédine Sy.
Après le Sénégal, le Nigeria, l'Angola, l'Égypte et la Côte d'Ivoire qui ont composté leur billet pour les quarts de finale lors de la deuxième journée, c'est au tour du pays hôte, le Mali, de valider son ticket suite à sa belle victoire sur la Côte d'Ivoire 61-39. Il faut dire qu'après 3 jours de compétition, 3 équipes survolent les débats. Il s'agit de l'équipe du Sénégal championne en titre, le Nigeria et l'Angola. Ces 3 formations ont réalisé un parcours sans faute. D'ailleurs, l'Angola a lancé un signal fort à ses adversaires en faisant chuter le pays organisateur, le Mali. Outre ces 3 formations, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et la Tunisie se comportent bien. Ce lundi est un jour de repos. Les joueuses vont recharger les batteries avant de redescendre sur le parquet du Palais des Sports, Salimata Maïga de Bamako. D'où vous a parlé Amédine Sy pour la Géoafrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. République centrafricaine, comme promis, les humanitaires ont célébré le 19 août dernier la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Sur fond d'inquiétude, la persistance des violences dans le pays rend difficile d'accès les régions où les besoins d'aide d'urgence sont pourtant critiques. Cette commémoration a permis de sensibiliser le public sur les activités des ONG, mais aussi de dire non aux attaques contre les civils et les humanitaires. De Bangui, correspondance de Freeman Sipila.
Entre janvier et juillet 2017, plus de 100 à 200 incidents ont ciblé les humanitaires en Centrafrique, alors que plus de 800 civils ont péri durant cette même période. Cette année, la communauté humanitaire a célébré cette journée autour du slogan « Les civils ne sont pas une cible ». Yves Ambomou Gicha travaille à l'ONG World Vision.
Les civils pris dans un conflit ne sont pas une cible d'attaque. C'est important de rappeler que les civils ont des droits. C'est important aussi de rappeler que l'aide humanitaire est un droit pour les populations affectées. Et que ce soit pour des crises humanitaires à caractère de désastre naturel ou de conflit, ces populations ont besoin et ont droit à l'aide humanitaire.
Le travail d'assistance aux personnes en détresse n'est plus chose facile en Centrafrique. Début août, 9 volontaires de la Croix-Rouge ont été tués dans les violences à Gambo dans le sud-est. À cela s'ajoutent les nombreux cas de braquage des bases des ONG par des hommes armés. Belfort Gobou, coordonnateur média à Search for Common Ground.
Pour le moment, il y a trop de difficultés sur le terrain avec les groupes armés qui s'attaquent un peu partout à la population civile et les humanitaires. Donc aujourd'hui, je dis que le travail est vraiment difficile pour le terrain en ce moment. Il faut que le gouvernement, la MINUSCA, tous les parties prenantes sachent que les humanitaires sont là pour aider la population vulnérable, la population victime de la crise que nous traversons en ce moment.
Même la population parfois comprend difficilement le rôle de ces organisations humanitaires. À l'occasion de cette célébration, les ONG ont présenté leurs activités à travers des expositions à Bangui. Ces hommes sont venus visiter les stands.
Avant cette journée, moi je voyais les ONG, mais je ne connaissais pas leur domaine d'action. Et cette journée m'a permis de connaître un peu ce que font les ONG sur le territoire centrafricain. Beaucoup de ONG évoquent le manque de financement. Ce que veut dire ces ONG, c'est que la population doit sentir l'impact de leur action sur le terrain. Bon, moi je pense qu'il y a un bilan négatif qui est là parce que eux, la majorité me disent qu'ils travaillent dans le domaine de protection alimentaire, mais je ne vois pas l'effet sur le terrain.
Le coordonnateur humanitaire en République centrafricaine, Najat Rochdi, a déploré que les déplacements forcés privent encore 13% de la population de ses droits les plus fondamentaux. Face à la détérioration de la situation, la ministre des Affaires sociales appelle à une mutualisation des efforts. Virginie Baïkwa.
La protection de la population incombe au gouvernement, mais dans le contexte centrafricain où le pays ne dispose pas d'une armée, où cette mission est confiée à la force internationale de la MINUSCA, la mutualisation des efforts est la seule solution appropriée. Le gouvernement a toujours condamné avec la dernière rigueur les attaques visant les humanitaires qui, au prix de leur vie, cherchent à sauver des vies.
La République centrafricaine traverse à nouveau, depuis le début de l'année 2017, une période d'instabilité, notamment marquée par une forte recrudescence de la violence. Le nombre de personnes ayant besoin d'assistance humanitaire est passé de 2,2 en janvier à 2,4 millions en juin 2017. Aujourd'hui, 600 000 personnes sont déplacées sur l'ensemble du territoire. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Au Mali, la cour d'appel de Bamako a condamné Aliou Mahaman Touré à 10 ans de réclusion. Cette sentence contre l'ancien commissaire du Moujao à Gao au moment de l'occupation du Nord par les djihadistes est loin de plaire à tout le monde. Aliou Mahaman Touré était accusé de crimes de guerre, d'atteinte à la sûreté de l'État, d'association de malfaiteurs, de coups et blessures volontaires, de torture, de terrorisme et aussi de détention illégale d'armes de guerre et de munitions. Lors de l'audience de vendredi dernier, il a nié toutes ces accusations, malgré les dépositions accablantes de certaines de ses victimes et de témoins pendant le procès. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
Si les Bamakois n'ont pas pris d'assaut la salle de jazz Boubacar Sidibé, c'était tout le contraire pour les témoins et certaines victimes venues de Gao. Notre confrère Issa Idrissa Maïga de Gao revient sur ce qu'il a vécu.
Je suis allé prendre les informations chez Aliou. Ils m'ont fait rentrer dans le poste de police là-bas. Ils m'ont dit, bon, vraiment, monsieur Issa, vous êtes en état d'arrestation. Ils m'ont braqué et il y a même un d'eux qui m'a braqué, même avec Klachnikov sur la rampe droite là. Deux heures de temps après, ils m'ont relâché. Il y avait un jeune homme qui était à zéro pas de moi, on l'a chicoté. Les gens sont sortis pour voir l'enfant là, comment il le frappait, tellement qu'il criait. Donc après ça, le soir, ils sont venus à la radio, ils ont encerclé, ils sont rentrés.
Chauffeur de son état au moment de l'occupation djihadiste, ce jeune homme a été amputé de son pied parce qu'il a été accusé de trafic de cigarettes. Pour lui, Aliou est le seul responsable car il exécutait les décisions du juge islamique.
On est parti pour Gossi, pour acheter des cigarettes. On a payé à 90 000 francs à Gao. On est vendu à 225 000 francs parce qu'il n'y a rien. Pas de cigarettes à Gao. Ils ont tout pris. Ils ont frappé. Parce que celui, le commissaire de police de Gao. Encore celui, habitant de Gao. Celui qui connaît Gao encore. Aliou connaît Gao trop. Donc tous les droits là, c'est Aliou qui a fait.
À la barre, Aliou Maman Touré a nié tous les chefs d'inculpation. Il a été défendu par certains avocats qui trouvent que la peine à réclusion est acceptable. Maître Tchessolo Konare.
La chambre de jugement vient de le reconnaître coupable des faits à lui reprocher quand même. Le a accordé le bénéfice de large circonstance atténuante. Or, dans le cas d'espèce, lorsque les cours et tribunaux accordent le bénéfice des circonstances atténuantes, conformément aux dispositions de l'article 18, alors, en cette matière, la peine de maximale étant la peine de mort, ils peuvent ramener cette peine à 5 à 20 ans. En lui accordant le bénéfice des circonstances atténuantes, on peut prononcer une décision assortie de sursis.
La partie civile se réjouit de l'organisation de ce procès, mais elle n'est pas satisfaite du jugement de la cour. Maître Mokhtar Mariko.
Les coups et blessures aggravées, mais ce n'était pas cette qualification que nous voulons, parce que ces crimes-là, c'était prescrit au bout de 10 ans. Si c'est un crime de guerre, il n'y a pas de prononciation de peine de mort contre l'accusé, mais quand même, c'est des crimes imprescriptibles. Jusqu'à la mort de l'accusé, il peut être poursuivi un jour. Donc voilà pourquoi nous nous battons. Si la cour n'est pas allée dans ce sens, peut-être qu'elle a pensé avoir tous les éléments à son pouvoir pour trancher.
Les victimes et témoins saluent la tenue de ce procès parce qu'il avait été dit que l'ancien commissaire du Moujao avait été libéré dans le cadre des échanges de prisonniers avec le gouvernement malien. Issa Idrissa Maïga.
Il y en a qui disent qu'Aliou n'a rien fait, mais tout ce qu'on dit qu'Aliou a fait, Aliou a fait. Aliou, c'était un commissaire islamique extrêmement puissant. Je peux dire même qu'il avait droit de vie ou de mort pour les gens. Parce que s'il décide de quelque chose, il le fait. S'il décide d'exécuter quelqu'un, il l'exécute. S'il décide d'amputer, il l'amputer. Dire qu'Aliou est un innocent, ce n'est pas la vérité.
Il faut signaler que Aliou Maman Touré a été arrêté en décembre 2013 dans la localité de Gossi par les forces de défense et de sécurité du Mali. Il a été mis sous mandat de dépôt le 29 janvier 2014, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Burkina Faso, alors que l'attaque terroriste contre le café Aziz Istanbul à Ouagadougou reste jusque-là non revendiquée, la vie reprend sur l'avenue Kwame Nkrumah où a eu lieu la tragédie. Des patrons d'entreprises encore sous le choc ont commencé à rouvrir leurs portes à leurs clients, nous dit notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Sur l'avenue Kwame Nkrumah, c'est avec le cœur serré que les patrons d'établissement essaient de se remettre de l'attaque survenue au café Aziz Istanbul. Il est important de rester fort, souligne Sinclair Kéré, gérant du café pâtisserie La Véranda, situé entre le café Cappuccino et le café Aziz Istanbul.
Beaucoup de nos clients nous ont rendu visite et ce qui sortait beaucoup de langage, c'est qu'il ne faut pas que nous abandonnons. Nous serons toujours là avec nous et des discours comme ça nous réconfortent dans ce que nous faisons. Parce que une année après Cappuccino, de tels événements qui se produisent encore et on est touché au tout profond de soi-même. La reprise est assez lente. Nous avons décidé de créer une économie sur cette voie et des gens mal intentionnés ne pourront pas nous détenir de nos objectifs.
Juste en face, de l'autre côté de l'avenue, le patron du restaurant chez Simon a été confiné dans son établissement pendant tout le temps de l'attaque. Wadia Abissalé en garde des traces.
Vraiment, les sentiments sont trop bas maintenant, comme ça a été répété deux fois. Mais toujours, nous, on compte sur Dieu que tout le monde va avoir le courage de revenir et de passer, il n'y a aucun problème qui va se passer. Bien sûr, avec l'aide de l'État aussi et la sécurité, là, ça va aller, prête à Dieu. On ne peut pas dire qu'on n'a pas peur, on avait peur aussi un peu, mais ça va maintenant.
Pour un restaurant habitué aux places toujours occupées en temps normal, les choses ont bien changé avec des clients un peu plus méfiants, témoigne un des employés du restaurant chez Simon.
C'est un à un, puis s'il vient aussi, c'est un des emportés qu'il met sur mes pieds, le pas. Il ne vient pas s'asseoir comme ça.
Deux attentats sur la même rue en à peine 19 mois suscitent des questionnements légitimes, comme si la première attaque n'avait jamais servi, constate Sinclair Kiré.
On devait tirer beaucoup de leçons de ce qui est arrivé à Cappuccino. Je peux dire peut-être qu'il y a eu défaillance quelque part, mais il faudra que cette voie soit assez sécurisée pour que les étrangers qui nous fréquentent puissent avoir un temps sans peu un peu d'inquiétude. Organiser des pratiques fréquentes sur cette voie ne sera pas mauvais. Parce qu'aujourd'hui, pour que la fréquentation atteigne son objectif ou atteigne le summum, il faut bien que les gens se sentent en sécurité. Se sentir en sécurité, c'est de savoir qu'on a des gens tout autour de nous qui sont prêts à intervenir quand besoin il sera.
C'est une reprise encore timide pour les activités commerciales là, sur l'avenue Kouamounou-Kourouma ici. Les propriétaires d'établissements encore sonnés par cette deuxième attaque qui a eu lieu ici au Café Istanbul, à quelques mètres seulement du Café Cappuccino, expriment leur désarroi vis-à-vis des failles sécuritaires constatées, mais ne veulent surtout pas céder à la peur. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement et les syndicats sont parvenus à un accord sur une série de revendications qui minaient la fonction publique. L'accord conclu prévoit notamment le paiement d'arriérés de salaire. D'Abidjan, les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Applaudissements, chaudes poignées de main et accolades, c'est l'épilogue de 8 mois de négociations, souvent houleuses, entre le gouvernement ivoirien et les organisations syndicales des travailleurs. 8 mois de discussions pour trouver un accord sur une série de revendications à l'origine de plusieurs mouvements de grève qui ont paralysé l'administration et les services en novembre et janvier dernier. Théodore Nyanyazadi, président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public.
Oui, nous sommes satisfaits parce que c'est une fin heureuse pour les fonctionnaires. Depuis de longs mois, nous avons mené une lutte avec plusieurs points de revendication et nous avons obtenu pratiquement les 90% de nos revendications. Donc nous ne pouvons qu'être heureux. Et en plus, le point qui cristallisait toutes les passions depuis plusieurs années, notamment le stock des arriérés évalué à près de 250 milliards, vient d'être résolu avec un chronogramme de paiement, je pense, qui est satisfaisant pour tous.
Soro Mamadou est le secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme. Il se réjouit lui aussi de la conclusion de ces accords.
Nous notons qu'il s'agit d'une amélioration des conditions sociales des travailleurs mis à la retraite, des travailleurs en activité. Et aujourd'hui, participer à la signature d'un accord qui consacre le paiement du stock des arriérés, naturellement, consacre au moins une issue heureuse pour cette revendication majeure, essentielle pour l'ensemble des fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire.
Dans le texte paraphé par les syndicats et le gouvernement, l'État ivoirien s'engage notamment à payer près de 250 milliards de francs CFA, soit 447 millions de dollars d'arriérés des vraies valorisations salariales et à abandonner la réforme de la retraite, une réforme adoptée en 2012 et qui n'était pas du goût des fonctionnaires. L'accord prévoit également une trêve sociale de 5 ans. Sur ce dernier point, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly espère que les différentes parties respecteront leurs engagements.
C'est une trêve donc sur une durée de 5 ans pendant laquelle les syndicats se sont engagés à discuter avec le gouvernement pour trouver des solutions à tous les problèmes qui pourraient se poser et arrêter toute grève pendant cette période. Et le gouvernement a aussi indiqué toute sa détermination à être à l'écoute des syndicats pour que dans un cadre nouveau, apaisé, que nous puissions discuter de toutes les questions qui sont d'intérêt national. Donc je me réjouis de cette conclusion aujourd'hui et de la signature donc, de cet accord.
La Côte d'Ivoire compte officiellement près de 183 000 fonctionnaires. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.